Eh bien, mes amis, nous voilà déjà arrivés dans cette journée du 2 février, au milieu de notre retraite. Comment se sont passés vos assiettes, votre lecture? Eh bien, moi, je me suis dit, il faudrait vraiment y passer la nuit. Mais c'est vrai. Parce que je me suis dit, j'aurais dû leur faire lire tout l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Mais je vais vous le résumer. En quelques mots, mais parce que je vous pose une question, je m'en suis rendu compte aussi. N'est-ce pas? L'enseignement de Jésus concernant Israël et les nations est-il différent des prophéties de l'Ancien Testament? Alors donc, je voudrais connaître les prophéties de l'Ancien Testament. Et comme on vous a dit qu'il y avait des prophéties déjà dans la Genèse, il faudrait commencer par la Genèse et puis finir par Malachie. Au moins, j'espère que vous vous rendrez compte qu'il y a du travail devant vous. Et que si vous voulez vous nourrir de l'Écriture, vous pouvez le faire. Vous ne savez pas tout. Et moi non plus. Et j'ai toujours besoin d'apprendre. Je suis encore à l'école. Et on est à l'école jusqu'à la fin de ces jours. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et on remercie le Seigneur d'être un si bon maître qui, malgré que vraiment, bien souvent, nous ne comprenons rien, il ne nous met pas dehors. Il reprend la leçon. Il ne nous prend pas pour des cancres en disant « ils ne comprendront rien ». Il reprend ses leçons. Puis même si on redouble plusieurs fois, il accepte encore. Puis tout à coup, alors, la lumière se fait merveilleuse. Et il a de la patience avec nous. Alors, nous voulons lui demander qu'il nous dirige en ce moment. Ô Dieu notre Père, nous te bénissons de nous avoir donné comme maître, non pas un archange, mais ton propre Fils, Jésus, qui s'est fait homme pour pouvoir nous comprendre, qui a revêtu notre humanité, qui est né de la Vierge Marie. Nous te bénissons parce que nous savons que son corps a été formé dans le sein de cette femme qui t'a dit oui à l'Annonciation. Et nous te bénissons pour le oui de Marie. Et nous te remercions qu'il y ait une femme qui ait accepté qu'il se passe cette chose extraordinaire en elle. Nous nous courbons pour t'adorer, ô notre Dieu. Comment cela se peut-il de consentir à devenir un homme, toi le Dieu unique, le Dieu suprême, et d'être présenté ici-bas en figure comme un homme? Mais c'est parce que tu nous aimais. Et tu voulais que nous soyons sûrs que tu pouvais comprendre l'humanité. Et tu es venu pour racheter ce premier homme, Adam, et toute sa descendance. Merci, ô Dieu, de nous avoir tellement aimés. Et qu'étant sûrs de ton amour, nous puissions nous ouvrir à ton immense grâce et recevoir toutes les bénédictions que tu nous as promises. Captive notre intelligence, notre mémoire et notre volonté et accorde-nous la grâce d'écouter, de lire, de méditer, de comprendre et de mettre en pratique afin que nous soyons de ces bienheureux qui lisent la prophétie. Pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors, dans vos ateliers, il y a eu un peu de partage? Oui. Et je ne vais pas vous demander de faire un rapport
sur chacun de vos ateliers parce que ça prendrait peut-être beaucoup de temps. Mais s'il y a des questions après que vous voudriez encore voir, vous aurez la liberté de les poser. Est-ce qu'il y en a qui ont pu lire non seulement Matthieu, mais aussi Luc ? Formidable. Parce que vous avez bien compris que ces quatre évangiles ne sont pas simplement des répétitions des mêmes choses. Dieu, dans son amour, a voulu que nous ayons vraiment quatre portraits du Seigneur. Et vous savez, il sait ce qu'il fait. S'il en a voulu quatre, c'est pas pour qu'on essaye maintenant de les mettre en un, pour que ça aille plus vite. Parce que chacun de ces portraits nous manifeste quelques beautés de plus du Seigneur Jésus. Jésus, en Matthieu, nous est présenté comme le roi. Vous connaissez cela, je le souligne simplement. Alors, un roi, qu'est-ce qu'il doit avoir ? Un royaume. Et l'évangile de Matthieu s'adresser à qui particulièrement ? Matthieu était un juif. Hein, et il a adressé son évangile à des juifs. C'est pourquoi, sans cesse, quand vous lisez l'évangile de Matthieu, vous voyez qu'il se rapporte à l'Ancien Testament. Toute l'argumentation de Matthieu est centré sur l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Les Juifs connaissaient l'Ancien Testament. Alors, Matthieu leur parle de choses qu'ils peuvent contrôler. Comme moi, vous avez la Bible, je vous dis que vous pouvez contrôler ce que je vous dis, parce que vous avez en vos mains la Bible. Eh bien, les Juifs du temps de Jésus connaissaient donc les prophéties. Et ils auraient dû pouvoir le reconnaître. Mais malheureusement, ils n'ont pris qu'une partie des prophéties, celle qui leur convenait au moment où Jésus était apparu. Qu'est-ce qui régnait au pays Canaan ? Qu'est-ce qui dominait Israël ? Les Juifs ? C'était les Romains. Alors ils étaient donc occupés par une nation étrangère. Et quand on est occupé par une nation étrangère, qu'est-ce que l'on désire ? Se libérer. La libération. Et alors, ce qu'ils attendaient du Messie, c'était un libérateur national et politique. Et ils s'en étaient fait une image à eux qu'ils appuyaient par certains textes de l'Écriture qui montraient en effet que le Messie délivrerait Israël. Mais eux, ils voulaient la délivrance tout de suite, à ce moment-là. Ils avaient oublié tous les textes qui parlaient d'un Messie souffrant, d'un Messie qui serait rejeté, comme vous le lisez dans le livre de Daniel. Il faudrait lire tout le livre de Daniel, n'est-ce pas ? Alors, ils ne l'ont pas reconnu et ils ont été déçus. Et malgré les miracles qu'ils faisaient, eh bien les miracles de Jésus, la vie de Jésus, n'a pas suffi pour les amener à croire. C'est pourquoi ce ne sont pas les miracles qui vous amènent à la foi. Comprenez-vous bien ? Parce qu'il y a des mouvements aujourd'hui qui pensent que si l'Église avait la puissance de faire des miracles, les gens se croiraient. Ce n'est pas vrai. On expliquerait. Or, un miracle ne s'explique pas. On le rejette ou on l'accepte. Mais on n'explique pas un miracle. C'est quelque chose qui nous départ. Je me souviens toujours du professeur Karl Barth, un grand bonhomme théologien, qui disait « Un miracle ne s'explique pas. » On n'explique pas un miracle. C'est un miracle, c'est tout. Mais on n'a pas un raisonnement là-dessus. Mais si Dieu est Dieu, est-ce qu'il peut diriger toute chose et suspendre même une loi? Bien sûr, c'est lui qui a fait les lois. Alors Dieu est Dieu. Et c'est lui son pouvoir. Comprenez-vous? Mais n'essayez pas d'expliquer, vous ne pouvez pas comprendre. Mais on peut adorer. Et c'est ça, l'adoration, on l'a quand on ne comprend pas. Mais on n'adore pas n'importe quoi, on adore Dieu. Et on se courbe devant lui. Alors Matthieu, donc, écrit à des Juifs, et il leur parle de ce Messie. Son but, c'est de montrer que Jésus était quand même le vrai roi, le vrai Messie promis, mais qui a été rejeté et qui a été crucifié. Alors, quand vous lisez l'évangile de Matthieu, vous voyez des choses absolument merveilleuses. De sorte que je me disais, parce que, vous savez, j'écoute quand même bien, et quand Françoise m'a dit que c'était long, le chapitre 24, je me suis dit, elle a raison. Parce que je lui donne raison. Mais en reprenant mon chapitre 24, je me suis dit, il aurait fallu lire aussi chapitre 23. Et puis en lisant le chapitre 23, je me suis dit, il aurait fallu aussi lire avant, pour bien comprendre ce que Matthieu a voulu nous montrer au sujet du royaume. Et c'est vrai, c'est tout l'évangile de Matthieu qu'il nous faut lire. Le commencement, le chapitre premier, qui nous relie à tout l'Ancien Testament. Et alors vous voyez qu'il y a dans Matthieu une ligne tout à fait particulière. Jésus était le roi. Il venait pour instaurer le royaume. Et qui était l'homme qui annonçait ce royaume d'abord, le messager? C'était Jean-Baptiste. Et vous trouvez l'histoire de Jean-Baptiste dans Matthieu. Hein? Qui? Et Matthieu, est-ce que vous y trouvez la crèche dans Matthieu? Non, vous y trouvez la naissance de Jésus, mais pas l'histoire de la crèche. En revanche, qu'est-ce que vous trouvez dans Matthieu qui veut le présenter comme roi? Vous y trouvez les mages, les rois mages. Car quand on est roi, on reçoit des présents de roi. Alors, c'est Matthieu qui nous raconte l'histoire des rois mages, qui n'est pas racontée dans Luc, par exemple, hein, qui nous présente Jésus, c'est le même Jésus, mais qui nous dit d'autres choses sur lui, parce que Luc a une vision tout à fait particulière pour le peuple auquel il s'adresse, parce que Luc s'adresse aux Romains, aux païens. C'est le compagnon de Paul, et c'est au fond l'évangile de Luc, l'évangile que Paul prêchait, et qui s'adressait non plus à des juifs seulement, mais à des païens. C'est pourquoi, et dans Marc, c'est encore une autre version, c'est toujours le Seigneur. Mais Matthieu, disons, c'est le roi. Marc, qu'est-ce qu'il nous présente? Le serviteur. Alors, dans Marc, il n'est pas parlé de la naissance de Jésus. Vous êtes mis en présence directement du service de Jésus. Un serviteur, ce n'est pas nécessaire qu'on connaisse sa naissance, les circonstances de sa naissance. Ce qui compte, c'est son travail. Et quand vous lisez le premier chapitre de Marc, qu'est-ce que vous y trouvez? Une journée de Jésus. Le matin, il est à la synagogue. L'après-midi, il fait des visites particulières, il guérit la belle-mère de Pierre qui a la fièvre. Et quand Pierre parle à la belle-mère, ça fait monter la fièvre. Alors, tout d'un coup, il comprend qu'il vaudrait mieux parler de la belle-mère à Jésus. Et ce que vous devriez faire souvent, hein, au lieu de parler à tort et à travers de Jésus aux membres de vos familles, parlez des membres de vos familles à Jésus. Parce que ça vous fait monter la fièvre. Et c'est Jésus qui s'approchera des vôtres, même des réticents. Et la fièvre tombe. Qu'est-ce que vous mettrez? à servir. Comprenez-vous? C'est une chose qu'il faut bien comprendre. Alors, dans Marc, nous avons le parfait serviteur de l'Éternel, mais dont l'Ancien Testament nous parle, parce que l'Ancien Testament nous parle du service du Seigneur. Lui qui était Dieu s'est fait le serviteur de l'Éternel. Et vous avez ces péricopes merveilleuses, ces petites illustrations dans Ésaïe, il y en a 5, qui nous parlent du serviteur de l'Éternel. Eh bien, Marc, qui est le compagnon de Pierre, on pense que c'était plus aussi l'évangile que Pierre prêchait, vous le trouvez dans Marc, hein, qui était probablement le secrétaire de Pierre. Et vous trouvez là l'évangile de Marc, qui le montre serviteur, et cet évangile était spécialement prêché aux Romains aussi. Alors il y a des petites différences, mais ce n'est pas des contradictions, mais c'est des arguments qui sont faits pour le peuple auquel on s'adresse. Comprenez-vous? On ne peut pas toujours tout dire, mais on prend ce qui est essentiel pour nos autres. Dites, je ne prétends pas tout vous dire, mais vous êtes là rassemblés de milieu divers et j'aimerais au moins vous communiquer l'essentiel. Quand vous prenez l'évangile de Luc, alors, nous présente Jésus qui est toujours roi, comme dans Matthieu, si vous voulez, c'est le roi, oui, mais c'est aussi le serviteur. Mais le caractère de l'évangile de Luc, c'est de prouver que tout en étant Dieu, Jésus était un homme. Alors, quand il est question d'un homme, il faut commencer par le commencement. Alors, vous avez l'Annonciation. Marie n'a pas été éternellement enceinte. Il y a eu un moment où cette jeune fille est devenue enceinte. C'est vrai, hein? Je vois que j'en fais sourire, mais c'est vrai. Mais il faut voir les choses comme elles sont. Alors Marie, il lui est proposé de devenir la mère. Hein. Elle est choisie. C'est pour ça que nous avons des grandes leçons à apprendre de Marie. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre avant le concile de Vatican II. Les leçons de Marie, mère de Jésus. Elle a été visitée par Dieu. Dieu l'a contemplée. Il a vu cette jeune fille vierge, nourrie de l'Ancien Testament, et ça c'est vrai, hein. Quand elle prononce le Magnificat, elle n'a pas été chercher les rouleaux de la Torah pour pouvoir se remémorer tout ça, elle avait la Torah dans son cœur. Et alors, quand elle a rencontré Élisabeth, c'est une explosion de joie. Elle avait dit son oui au Seigneur, elle a été enceinte du Saint-Esprit, elle a conçu du Saint-Esprit, elle enfant était en elle, en formation, quand elle a salué Élisabeth. Vous connaissez l'histoire, hein? Tout près de Jérusalem, à Ein Karen, où sa cousine, qui était aussi sans possibilité d'avoir des enfants, a eu ce miracle d'être enceinte dans sa vieillesse, comme la vieille Sarah. Mais ben, ça rejoint l'Ancien Testament. Et alors, là, dans Luc, vous voyez Jésus à un jour qui naît dans une étable. Alors, il a un jour. Vous le voyez ensuite dans Luc, à 8 jours, quand on l'a circoncis. Vous le voyez ensuite à 40 jours, quand on le présente au temple. Donc, Jésus a été un enfant, le petit Jésus, oui. Mais il n'est pas resté le petit Jésus. C'est ça qui est dramatique. On nous le montre toujours dans les bras de Marie. Pauvre Marie, elle doit être fatiguée. Il a été dans les bras de Marie. Mais quand on vous présente toujours Marie d'abord, alors ça fait toujours le petit Jésus. Alors on comprend qu'on s'adresse plutôt à Marie. Mais on nous a un peu faussé. Alors il nous faut revenir à ces vérités premières. Alors, il ne faut pas rejeter Marie parce qu'on on lui a donné trop de place, c'est pas ça. Marie reste Marie. Et ce qu'elle a été pour Jésus, la mère de notre Seigneur, et nous la disons bienheureuse, nous n'avons pas peur de le dire. Et pourquoi est-ce qu'elle est bienheureuse? Parce qu'elle a accepté la volonté de Dieu en elle. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est elle la servante du Seigneur. Alors vous avez tout cela dans Luc. Donc, des récits que nous n'avons pas dans les autres évangiles. Tandis que les mages, là, ils viennent en Matthieu, c'est un roi, ils apportent les présents royaux. Alors, en revenant dans Luc, vous arrivez à voir Jésus à l'âge de 12 ans. Donc, il était enfant, il était adolescent, il a eu 12 ans quand il a été pour la première fois au temple avec ses parents à Jérusalem et qu'il a été tellement conquis, enfin, par les docteurs de la loi qui s'occupaient de la parole, qu'il est resté là. Les parents sont partis, croyant que l'enfant suivait avec des camarades. Et puis voilà que il n'était pas là. Le soir, on s'en occupe. Pauvre petit Jésus, où est-il? Alors les parents reviennent à Jérusalem et ils le retrouvent où? Là où ils l'ont conduit, au temple. Il n'est pas allé dans une discothèque. Figurez-vous. Et ils le retrouvent au temple. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés tout de suite au temple? Eh bien voilà, Jésus a 12 ans. Et c'est merveilleux. Quand on m'a demandé un jour à l'école du Saint-Esprit, c'était l'école de Sainte-Philomène autrefois, mais comme on a déboussolé Sainte-Philomène, on l'a appelée ensuite l'école du Saint-Esprit. Bon. Alors on m'avait demandé d'apporter un message aux enfants de 12 ans. C'est les prêtres qui m'ont demandé ça. Il y avait 80 gosses, là, 80 enfants. Alors j'y suis allé et je pouvais leur parler, mais pas de Jésus à 12 ans. C'est magnifique. Qu'il ait été homme, qu'on puisse leur dire, mais Jésus peut vous comprendre, il a eu 12 ans. Comprenez-vous? Et c'était pour moi l'occasion de leur donner à tous, comme souvenir, un Nouveau Testament. Et vous savez que les prêtres étaient drôlement contents. Parce que chaque élève, il voulait qu'ils aient un souvenir. Alors, je leur ai donné à tous un Nouveau Testament. Voilà ce qu'on peut faire. Notre évangélisation, ça peut se faire sans bruit et sans tapage. Et sans faire des appels d'argent. N'est-ce pas? Tout d'un coup, le Seigneur nous montre que c'est ça. Il y a des dépenses à faire, et il faut les faire, et si on les fait, il y pourvoit. Dieu y pourvoit toujours. Et moi, je suis toujours bouleversé que quand il nous demande quelque chose, il nous donne au centuple. C'est vrai de vrai. Quand c'est sa volonté, Dieu donne ce qu'il ordonne. Vous connaissez ce proverbe. Alors, notre Luc nous montre ensuite Jésus à quel âge? Jésus avait environ 30 ans. Alors donc, vous voyez que maintenant, c'est un homme fait et il commence son ministère. Ce qui n'était pas dit dans Marc. Dans Marc, il est dit au commencement de l'évangile de Jésus-Christ et vous avez tout de suite son service parce que là, c'est le serviteur. Dans Luc, c'est l'homme, l'humanité de Jésus, et il y aurait bien d'autres choses à dire. Et alors dans Jean, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu. Alors comment commence l'évangile de Jean? Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Mais alors si vous voulez mettre les quatre évangiles ensemble en les résumant, vous n'avez plus ces distinctions, c'est impossible. Et c'est pourquoi garder vos quatre évangiles, étudier chaque évangile pour lui-même, mais avec les autres évangiles. Et alors, il y a un ensemble de vérités qui vous sont données. Et vous savez que quand vous êtes devant le Seigneur, vous êtes devant un homme qui peut vous comprendre, mais vous êtes aussi devant le Dieu qui peut vous libérer, qui a la puissance. Un homme, quand il peut nous comprendre, c'est déjà beau, hein? Mais peut-être qu'il ne peut pas nous aider. Tandis que Jésus, il peut nous comprendre, et puis il peut nous aider parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Alors ça, c'est l'évangile de Jean. Et il est l'image du Dieu invisible. Il s'est fait homme. Alors, dans Jean, le commencement de Jésus n'est pas à la crèche, pas plus que sa fin pouvait être à la croix, n'est-ce pas? Il est ressuscité, il est le vivant, il est retourné auprès du Père où il nous prépare des places et il reviendra. Mais tous les évangiles nous parlent de son retour. Alors c'est comme homme qu'il est entré dans le ciel. Et ça, c'est fantastique. Hein? Il y a un homme dans le ciel. Ce n'est ni un Russe, ni un Américain. Ils peuvent aller assez haut, mais assez loin. Mais ils n'ont pas pu aller le trouver. Hein? C'est pour ça que Gagarine, le premier cosmonaute, disait qu'il avait voyagé là-haut, puis il n'avait pas trouvé Dieu, alors Dieu n'existait pas. Il n'avait pas rencontré Dieu. Peu importe, hein, la folie des hommes. Dieu est Dieu, au-dessus de toutes choses. Alors je vous dis simplement cela pour vous montrer combien c'est important, non pas de dire, moi j'ai lu un évangile, puis l'évangile qui me plaît le mieux, c'est celui-là. Hein? Un des quatre. Pourquoi pas les quatre? Hein? Quand vous avez la photo de quelqu'un que vous aimez, on aime le regarder sous les quatre portraits. C'est vrai ou c'est faux? N'est-ce pas? On n'en a jamais assez quand on aime quelqu'un. Alors, c'est une chose que je voulais simplement vous rappeler pour répondre à ces questions. Mais quand vous lisez ces évangiles, vous êtes toujours replacé dans l'Ancien Testament. Alors, ce Jésus que les évangélistes vous présentent, que ce soit Matthieu, un juif, que ce soit Marc, fils de Marie, de Jérusalem, que ce soit Luc, qui était un grec, lui, compagnon de Paul, que ce soit Jean, l'apôtre, frère de Jacques, fils de Zébédée, eh bien, c'est toujours la même personne, et les uns et les autres nous replacent dans l'Ancien Testament. Alors, l'enseignement de Jésus concernant Israël et les nations est-il différent des prophéties de l'Ancien Testament? Quand vous lisez l'Ancien Testament, alors ça je le résume, le monde s'y trouve divisé en deux. Il y a deux groupes dans tout l'Ancien Testament. Il y a un peuple que Dieu choisit après l'histoire du commencement, de la création. Vous voyez que Dieu choisit un homme qui s'appelle Abraham. Et il lui fait une promesse qu'il deviendrait le père d'une multitude. Le peuple d'Israël. Et c'est des promesses qui sont sans condition, qui sont faites à Abraham. Le peuple n'avait qu'à se confier à Dieu. Et le souverain de ce peuple, ce serait Dieu lui-même. Le roi, ce serait Dieu lui-même, le roi de ce peuple. Mais voilà que ce que l'on apprend dans l'Ancien Testament, c'est que ce peuple choisi, au milieu des nations païennes, parce que, à la suite du déluge, les descendants de Noé sont retombés dans l'idolâtrie. De sorte que, vraiment, l'histoire de l'homme, c'est une histoire d'un être incurable. Il a des délivrances. Il y a eu l'arche de Noé, il y a eu ses fils qui ont été sauvés du déluge, mais les descendants de Noé sont retombés dans l'idolâtrie. Alors Dieu se choisit un homme au milieu de cette idolâtrie, et il l'a choisi où, cet homme? Où habitait-il? En Irak. Alors ça vous place un petit peu dans l'actualité. La Mésopotamie. Eh bien, c'est l'Irak actuel. Alors, dans cette Mésopotamie, tout près au fond du jardin d'Éden, c'est ça qui est extraordinaire, qu'on reparle de tout cela maintenant. C'est quand même un signe des temps. Eh bien, là, il y avait un homme qui s'appelait Abraham, qui était un païen, qui adorait les idoles. Puis Dieu lui est apparu. Le Dieu de gloire est apparu à Abraham alors qu'il était en Mésopotamie. Tout à coup, Dieu s'est réveillé à lui. Et Abraham, comme Marie, a obéi. Sors de ton pays et de ta parenté pour aller au pays que je te montrerai. Et alors, c'est toute l'histoire d'Israël qui va commencer. Mais Abraham reçoit, au fond, des prophéties concernant la formation de ce peuple. Parce que pour former un peuple, ben, il faut que Dieu s'en mêle. Hein. Et puis pour que les 12 tribus, ils s'aimaient beaucoup les fils de Jacob, les descendants d'Abraham, entre eux, comme ils se chérissaient, n'est-ce pas? Cher Joseph, on va te tuer. N'est-ce pas? C'est pas très beau, hein, l'histoire des fils de Jacob. Alors, pour faire de ces 12 tribus un seul peuple, il faut qu'ils aillent dans la fournaise de l'Égypte. Et pendant 400 ans, eh bien, ils seront là, épurés en Égypte, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus, et que vraiment, leur cri monte jusqu'à Dieu, jusqu'aux délivrances de Dieu, qui a promis quelque chose à Abraham. Alors, Dieu suscite Moïse, parce que c'est lui qui suscite les hommes, n'est-ce pas? Il suscite Moïse comme le libérateur de ce peuple. Mais si vous arrivez dans l'Exode, vous voyez quelle est la promesse que Dieu faisait à ce peuple quand ils sont sortis de l'Égypte. Ils arrivent de l'autre côté de la mer, et vous avez maintenant là au verset 3 du chapitre 19 de l'Exode. Moïse monta vers Dieu, quand ils sont au Sinaï, hein, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est un langage symbolique, ça. Hein? Je vous ai porté sur des ailes d'aigle, c'est les soins de la providence de Dieu. Hein? Il les a emmenés, il les a délivrés. Maintenant, si vous écoutez ma voix, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuple. Donc Israël est un peuple à part, comprenez-vous? Et si vous écoutez ma voix, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume. Ah, le royaume, qu'est-ce que c'est, hein? Israël devait être le royaume. Alors, les Juifs connaissaient cela. Alors, quand on parlait de royaume, c'était d'eux qu'on parlait pour eux. Comprenez-vous? Ils étaient donc, selon l'Écriture, le royaume que Dieu voulait. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Est-ce que, quand Jésus est venu, la nation était sainte? Et le royaume, ils le voulaient, ils voulaient être un royaume, mais ils étaient sous la domination de l'Empire romain. Mais ils avaient gardé ça, mais nous, c'est nous qui devons être le royaume, c'est nous qui devons régner et dominer sur toute la terre. C'était la vocation des Israélites, mais seulement à quelles conditions qu'ils gardent l'alliance et qu'il soit un peuple qui appartienne en propre. Alors, quand Moïse leur a dit cela, il a dit, ben, tout ce que l'Éternel dira, nous le ferons. Ils ne se connaissaient pas eux-mêmes. Et vous connaissez maintenant l'histoire d'Israël dans le désert, comment ils ont murmuré sans cesse, et comment ils ont toujours voulu retourner où? En Égypte. C'est quand même frustrant, hein, pour Dieu. De délivrer un peuple qui dit tout le temps, oh, j'aimais mieux être où j'étais avant. Et ils oubliaient les coups de bâton, le fouet et toutes les privations. Mais il y avait les pots de viande, les oignons, les oignons. Oh, c'est bien ça, hein, notre Dieu. Même pour des oignons. Voilà ce qu'il regrette. Comme c'est notre vie, hein. Je crois que c'est Goethe qui a dit ça, hein. L'histoire d'Israël, c'est notre histoire. C'est ce que nous sommes. Bon, c'est ce que nous sommes. Mais voilà, alors, ce peuple a été délivré, hein, finalement. Ils sont entrés dans le pays de Canaan. Ils l'ont conquis, mais ils n'ont pas obéi à ce que Dieu leur disait. Ils devaient exécuter le jugement sur ces Cananéens qui étaient devenus des idolâtres. Alors, on dit, oui, mais c'est épouvantable, ces massacres, etc. Enfin, tous ces enfants qui sont morts, hein, ben ils sont sauvés, c'est déjà quelque chose. Parce qu'on ne peut pas rendre responsable un enfant. Mais quand vous naissez avec une pareille hérédité, ça vaut mieux de mourir. Et Dieu sait ce qu'il fait. Alors des fois c'est le déluge, une autre fois c'est autre chose, comprenez-vous? Mais Dieu est Dieu, et il a averti. Alors Israël a été infidèle, bon, alors Dieu a laissé ses peuples continuer de vivre aux côtés d'Israël. Et qu'est-ce qu'Israël a appris de ses peuples, alors qu'il devait être le modèle? Qui est-ce qui était le roi d'Israël? C'était Dieu. Il y avait un peuple qui était une théocratie. Mais ils ont regardé les autres peuples autour d'eux, et qu'est-ce qu'ils avaient les autres peuples? Un roi, les nations, elles avaient un roi. Et Israël a commencé à dire à Samuel, donne-nous un roi, pour que nous soyons comme les autres peuples. Parce que les fils de Samuel, sans les juges, ne marchaient pas dans les voies de leur père. Et alors voilà, ils ont voulu un roi. Alors ils ont commencé à ressembler aux nations. Et puis vous connaissez toute cette histoire. De sorte que Israël est allé de plus en plus loin de Dieu après des temps de restauration, comme au temps de David. Après le règne de Saül, il y a eu David, puis après il y a eu Salomon, l'homme si sage qui a bien commencé et qui a fini si mal, n'est-ce pas? Mais dont les écrits sont inspirés de Dieu. Ce n'est pas à cause de sa vie que je crois ces écrits. C'est parce que quand il était dans la volonté de Dieu, il avait la pensée de Dieu. Mais quand il a voulu suivre les convoitises de son cœur, ben, il était un homme comme les autres, et il a aimé beaucoup de femmes. Voilà l'homme. Et les femmes ont détourné son cœur. Et alors, c'est Israël qui devait être un modèle pour les nations. Dieu a suscité des prophètes qui ont dit, mais si vous continuez dans ce chemin-là, vous ne serez plus un modèle, mais vous serez dispersés parmi toutes les nations. Vous ne serez plus même un peuple. Je vous rejetterai. J'ai dit que vous étiez mon peuple, et bien maintenant je dis, lo ami, non mon peuple, non pas mon peuple. Comprenez-vous? Et est-ce qu'ils ont écouté les prophètes? Quand ils ont entendu Jérémie dire, ne mettez pas votre confiance dans le temple de l'Éternel en disant, c'est le temple de l'Éternel à Jérusalem, notre ville ne peut pas être détruite. Voyez déjà ce qui s'est passé à Samarie. Regardez ce qui s'est passé à Sodome. Eh bien, si vous continuez dans ces péchés-là, il se passera la même chose à Jérusalem. Et Jérusalem a été détruite en trois fois, hein. Et le peuple d'Israël a été emmené captif où? À Babylone. Mais qu'est-ce qu'avait dit Jérémie? Il avait dit qu'après 70 ans, c'est pour ça qu'on peut quand même compter certaines choses, hein. Après 70 ans, Dieu visiterait son peuple à Babylone. Parce qu'une fois que vous êtes dans l'épreuve, c'est pourquoi dans toute cette histoire de l'Irak et de tout ce que vous voulez aujourd'hui, je pense que Dieu a la haute main au-dessus de Bush et de tous les autres, et qu'il est en train de faire aussi une œuvre. Mais comme on le disait avec la sœur, c'est quand même terrible de penser qu'il faut toujours que ce soit le jugement qui nous ramène à Dieu. Parce que quand on est en face de la mort, eh bien, on pense à Dieu. Mais ce n'est pas ça les moyens de Dieu, il aime les moyens doux, mais vous ne voulez pas, mais moi je vous aime tellement, je permets certaines choses. Et je pense qu'il y aura une grande moisson d'âme, malgré tout. Malgré tout. Dieu règne au-dessus du déluge, il l'a dit, n'est-ce pas? Il était au-dessus du déluge, assis sur son trône. Alors nous ne sommes pas de ces gens qui vivent là, obsédés par les dernières nouvelles. Non, nous les avons dans la parole, les dernières nouvelles. Comprenez-vous? Les dernières nouvelles sont dans la parole. Mais nous ne la connaissons pas assez et nous voudrions justement nous en imprégner. Alors, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu s'était choisi un peuple qui devait être un modèle. Alors il le bénit, lui donne des bénédictions terrestres, mais d'un autre côté, s'il n'est pas fidèle, qu'est-ce qu'il aura aussi? Des châtiments terrestres. Et ils sont avertis de cela. Mais Dieu est toujours un Dieu de grâce. Alors après les 70 ans, il fait remonter le peuple de la captivité et on reconstruit le temple au jour de Cyrus avec un Esdras, un Zorobabel et tous ces noms qui devraient vous être familiers. Et après, il y a un autre envoi sous un autre roi païen, Assuérus. C'est Néhémie qui monte, c'est Néhémie qui est envoyé à Jérusalem pour reconstruire la ville. Il y a reconstruction du temple d'abord, puis ensuite il y a reconstruction de la ville, des murailles de la ville. On a déjà étudié tout cela, Esdras, Néhémie, on a fait des études là-dessus, avec des prophètes comme Agée et Zacharie, qui réveillent le peuple, qui, au lieu de construire le temple, de finir le temple, se bâtissait des maisons. C'est un peu toujours ce que nous faisons. On pense d'abord à soi, puis on oublie la maison de Dieu. Donc, à un moment donné, quand Israël a été mis en captivité, le pouvoir que Dieu avait donné à Israël a passé aux nations. Jusque-là, c'était Israël qui devait diriger le monde, être un exemple pour le monde. Mais quand Israël, comme peuple, a manqué, Dieu a donné le pouvoir du monde à qui ? Aux nations, à Nebuchadnezzar. Et il s'est révélé à Nebuchadnezzar, qui était un païen. Nebuchadnezzar a eu ces visions que vous trouvez alors dans Daniel, et cette succession de royaumes, et nous sommes encore, nous autres, dans le temps des nations. Alors, dans tout l'Ancien Testament, vous voyez Israël, qui a le peuple de Dieu, qui a la loi de Dieu, des privilèges divins, et qui devrait se conduire d'après cette loi. Puis vous voyez les nations que Dieu laisse se conduire elles-mêmes, d'après leur sens, comme ils veulent. Alors chacun a son Dieu, etc. Comprenez-vous? Voilà ce que vous trouvez dans l'Ancien Testament. Deux groupes. Alors, si vous ne faites pas partie d'Israël, vous faites partie des nations. Si vous ne faites pas partie des nations, vous faites partie d'Israël dans l'Ancien Testament. Tandis que quand vous arrivez dans le Nouveau Testament, il y a un troisième groupe dont il n'est pas parlé dans l'Ancien Testament. Il y a un troisième groupe qui surgit après le rejet de Jésus-Christ. Rejet qui s'est fait d'abord par les Juifs. Israël était remonté de la captivité, et au fond, dans la captivité, ce qu'ils avaient compris, c'était qu'ils ne devaient plus être des idolâtres. L'idolâtrie, l'adoration des idoles, c'était banni. Les épreuves qu'ils avaient eues à Babylone et dans l'exil les avaient ramenés à la foi au Dieu unique, n'est-ce pas? Et alors, quand Jésus est apparu, le temple était rebâti, il y avait la foi au Dieu unique qui était revenue, la maison, comme le dira Jésus, était balayée et ornée. Mais malheureusement, c'était que du formalisme. On pratiquait la religion juive, la lettre de la religion, mais pas du cœur. Alors c'était une religion de forme. On observait scrupuleusement la loi, on payait la dîme de la nette et du cumin, mais on volait les veuves et on maltraitait les orphelins. Est-ce que c'est ça que le Seigneur voulait? Non, n'est-ce pas? Je veux miséricorde et non pas sacrifice. Les sacrifices étaient restaurés, il y avait cette religion-là. Mais quand Jésus a vu tout cela, et qu'il a vu ce qu'on avait fait de la maison de son père, comme il l'appelle, hein, qu'est-ce qu'il a dit de cette maison? C'est une caverne de voleurs. Et il a fait un fouet de corde. Et il s'en est pris aux conducteurs juifs qui étaient religieux. Mais les ennemis de Jésus ont été d'abord des gens religieux. Mais quand Jean-Baptiste s'est mis à prêcher, quand il a paru, eh bien, les gens souffraient parce qu'il y avait quand même une connaissance de l'Ancien Testament, puis on attendait quand même, il y avait un petit groupe, mais un petit résidu juif qui attendait la venue du Messie, qui se confiait. Il y avait Marie, il y avait Joseph, les descendants de David, hein, et puis il y avait qui encore? Vous avez des noms? Siméon, le vieillard Siméon, qui avait eu une révélation que il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie, le salut. Et il peut dire, quand il tient le petit enfant, mes yeux ont vu ton salut. Donc le salut, c'est quelqu'un. C'est une personne. Mes yeux ont vu ton salut. C'est merveilleux, ça. Et puis Anne arrive en louant Dieu. C'était une veuve et qui elle ne s'était pas desséchée. Elle avait 80 ans, mais elle louait le Seigneur. C'est merveilleux. Voilà. Ce que nous apprenons au temps de Jésus. Alors, Jean-Baptiste disait à tous ceux qui venaient, repentez-vous. Il reprenait au fond ce que les prophètes avaient enseigné à Israël avant l'exil. Il disait, mais maintenant le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Le royaume de Dieu s'est approché. Parce que ce royaume, il devait s'établir. Et il aurait pu s'établir si on avait accepté le Seigneur. Alors, ceux qui se repentaient, ils se faisaient baptiser. Mais c'était un baptême de repentance. Ils confessaient leurs péchés et pour bien montrer qu'ils voulaient s'en débarrasser, ils entraient dans l'eau boueuse du Jourdain et ils étaient baptisés par Jean. Puis voilà qu'un jour, Jésus lui-même est venu, comprenez-vous? Parce qu'il devait venir. Jean disait bien, ce n'est pas moi, parce qu'on lui demandait qui es-tu, est-ce que tu es le Messie? Parce qu'on voit tout de suite, quand un homme fait du bien, c'est peut-être le Messie. Hein. Non, non, c'est pas moi. Mais alors qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es Élie? Non. Alors quoi? Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Il cite Ésaïe, chapitre 40. Vous comprenez? Il faut toujours revenir. Alors, c'est une citation d'Ésaïe. Jean ne dit rien de lui-même. Mais voilà qu'un jour, il a la révélation, cet homme qui vient là, c'est le Messie, c'est Jésus. C'était son cousin, hein? Mais enfin, ils avaient été élevés loin l'un de l'autre. Mais il a la révélation que c'est lui, il a vu le Saint-Esprit descendre sur lui. Mais Jésus vient, puis lui demande d'être baptisé. Alors, il y a la réaction de Jean, vous la comprenez? Mais c'est moi qui dois être baptisé par toi. C'est pas moi qui dois te baptiser. Et Jésus lui dit, il est convenable d'accomplir toute justice. Parce que Jésus, étant fait homme, va assumer la responsabilité de l'humanité. Alors, comme un homme, comme s'il était un pécheur, il entre dans les eaux du Jourdain. Il prend tout sur lui. Tous ces péchés qui ont été mis là, il prend tout à son compte, parce qu'il va pardonner les péchés. Il est Dieu qui peut pardonner les péchés, un seul. Alors, il prend la position d'un homme comme nous, il se manifeste au milieu du monde comme un homme. Mais Dieu, alors, intervient pour bien montrer qu'il ne faut pas se tromper. Qu'est-ce qui se passe au Jourdain? Quand Jésus est en prière dans l'eau du Jourdain, au baptême, le ciel s'ouvre. On entend la voix du Père qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et on voit le Saint-Esprit qui descend sur lui comme une colombe. Une manifestation de la Trinité. Le Père qui parle dans les cieux, le Fils qui est en prière et qui est baptisé, et le Saint-Esprit qui descend sur lui.
Alors voilà une des manifestations de ce qu'on appelle la Trinité. Et Jésus commence alors son ministère. Et qu'est-ce qu'il dit dans ses paroles ? Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Le roi était là. Comprenez-vous ? Le roi était là. Mais est-ce qu'il a été reçu, ce roi ? Alors lisez Matthieu, et vous verrez des choses extraordinaires, et vous comprendrez mieux cet évangile de Matthieu. Je vais juste vous donner un petit aperçu, puis on va s'arrêter pour vous laisser respirer un moment. Dans le chapitre 12, à la fin du chapitre 12, vous voyez, je veux lire le verset 40, depuis le verset 43. Le Seigneur a parlé, Matthieu 12, hein, le Seigneur a parlé à toutes ces villes impies, et puis à toutes ces villes où il a prêché, et il leur montre que elles ne se sont pas repenties. Hein. Et alors verset 43 du chapitre 12, Jésus disait ceci, après avoir dit qu'il y avait plus que Salomon, vous vous réclamez toujours de Salomon, mais il y a ici plus que Salomon, il y avait le Seigneur, hein. Il y avait plus que Jonas. Les Ninivites s'étaient repentis à la prédication de Jonas, mais on ne se repentait pas quand Jésus était là, hein. Alors leur état était pire. Alors il dit au verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est exactement ce qui était arrivé à Israël. L'esprit impur était parti quand ils ont été dans l'exil. Ils avaient connu, n'est-ce pas, que l'idolâtrie, c'était quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Alors, ils n'étaient plus des idolâtres, ils adoraient le vrai Dieu. Mais c'était une religion de forme. La maison était balayée et ornée. Mais elle n'était pas habitée, comprenez-vous ? Ça ne suffit pas que vous ayez des pratiques religieuses. Il faut que quelqu'un vous habite. Est-ce que vous êtes habité ? Est-ce que Jésus est à côté de vous ? Est-ce que Jésus est en vous ? Est-ce que Dieu vous habite ? Est-ce que votre cœur est devenu la demeure de Dieu ? Ou bien est-ce que vous n'avez qu'une religion de forme ? Oh, mais moi j'ai des pratiques religieuses. Mais non, mais ça c'est la maison balayée et ornée. Et si votre maison est vide, qu'est-ce qui risque d'arriver ? Le démon qui s'en est allé va en prendre cet autre esprit plus méchant que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et c'est cela qui est arrivé à Israël, comprenez-vous ? N'ayant pas reçu Jésus, leur condition a été pire que la première. Ils ont rejeté Jésus. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, soulignez bien cela, la génération qui ne passera pas, ce n'est pas une vie humaine. Une génération, c'est 40 ans à peu près qu'on disait, hein. C'est le caractère, on peut dire, on parle d'une génération, c'est le caractère de cette génération qui ne passera pas. À la fin, et c'est comme ça que vous allez comprendre le 24 de Matthieu, à la fin, les Juifs seront dans le même caractère qu'ils se trouvaient au temps de Jésus. Comprenez-vous ? Et moi qui vais en Israël, je vois bien cela. La plupart des Juifs ne sont pas des croyants. Ils ont de nouveau, selon les Écritures, puisqu'ils devaient être restaurés, ils doivent reprendre, redevenir un État, une nation. Ils le sont déjà par la grâce des Nations Unies, hein, qui en 48 ont décrété qu'on avait été assez abominable pour eux, il fallait leur donner un coin de terre. Mais ça, c'est encore les hommes qui ont fait ça. Mais quand Dieu parle et veut les choses, c'est comme une préparation, c'est qu'on est au fond comme au temps de Jean-Baptiste. Mais Jésus parle de cela, cette génération. Alors, comme Jésus s'adressait encore à la foule, verset 46, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Sa mère et ses frères, c'était quelque chose pour Jésus aussi, hein. Mais c'était les relations naturelles. Or, il va vous montrer là, et ça c'est un texte capital, qu'il n'est plus question d'une relation naturelle. Comprenez-vous? Parce que ça vous dit, mais comment est-ce que Jésus a pu renvoyer comme ça sa mère et ses frères? Mais Jésus était fils de Marie, si vous voulez, selon les hommes, hein, et comme homme. Mais il montre que maintenant, ce ne sont pas les relations naturelles qui font le peuple de Dieu. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, là, qui est ma mère? Alors vous dites, mais comment est-ce que Jésus a pu dire une chose comme ça? Comprenez-vous? Si vous ne connaissez pas le caractère de cet évangile, vous ne pouvez pas comprendre. Les Juifs, pour eux, Jésus était un des leurs. Bon, mais il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et alors, il est dit dans Jean 1, verset 10, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. C'est quelque chose de nouveau qui va se produire, mais qui n'était pas précisé comme cela dans l'Ancien Testament, qu'il y aurait un troisième peuple. Comprenez-vous? Que vous trouverez dans le Nouveau Testament, mais qui ne peut exister qu'après la mort et la résurrection de Jésus. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères, qui étant dans la main de ses disciples, il dit, les disciples c'est ceux qui ont cru, qui suivent Jésus, et ils sont juifs, donc il y a des juifs qui peuvent être sauvés, il dit, étant dans sa main, voici ma mère et mes frères. Car quiconque, alors quiconque, c'est nous tous, hein, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Vous comprenez maintenant? Jésus n'a pas manqué d'égard, mais il établit un ordre nouveau. Ce ne sont plus les relations naturelles. Parce que tu es catholique, tu es sauvé parce que tu es catholique. Parce que tu es protestant, tu es sauvé parce que tu es protestant. Parce que tu es dans un milieu évangélique, tu es sauvé parce que tu es évangélique. Ce n'est pas vrai. C'est une relation personnelle que tu dois avoir avec le Seigneur indépendamment de ta religion de naissance. Comprenez-vous? Il n'y a qu'un seul Jésus, qu'un seul Sauveur. Et quand on a reçu ce Sauveur, on est fils du même Père. Hein? Alors qu'est-ce qu'on est les uns pour les autres? Des frères, même si on se réunit dans une communauté autre que celle où je vais. Comprenez-vous? On est des frères, et alors on a un lien fraternel, et on se sent membre du corps de Christ. Ce qui vous intéresse, ce qui vous fait souffrir, me fait souffrir. Ce qui vous réjouit, me réjouit, parce qu'on est membre du même corps. Si j'ai ma sciatique, c'est tout mon corps qui souffre, hein. C'est pas seulement ma jambe. C'est vrai, cela. Et il faut que nous ayons ces expériences pour dire, comme c'est vrai ta parole. Si un membre souffre, tous les autres souffrent. Mais si un membre est glorifié, tous se réjouissent. Il faut que vous entriez dans cette parole. Vous voyez, il est dit, l'entrée, la parole prophétique, donc, ou une lampe dans un lieu obscur, la révélation de tes paroles, ou une autre traduction dit l'ouverture, l'entrée de tes paroles est claire. Il faut entrer dans ces paroles pour être éclairé. Il ne faut pas simplement les lire, parce qu'on peut lire quelque chose et ne rien comprendre. Entrer dans ces paroles, la révélation, c'est une révélation. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur. Et alors, ce même jour, si vous lisez le chapitre 13, vous voyez quelque chose de tout nouveau. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Alors, vous voyez là, Jésus est sorti de la maison. Et il va sur la mer. Ben, c'est symbolique, ça aussi. La maison, c'était quoi? C'était Israël. Et déjà, à ce moment-là, puisqu'il voit qu'on ne croit pas en lui, il sort de la maison, il va sur la barque, et la mer, c'est le symbole de quoi dans l'Écriture? Des nations, des peuples. Et son enseignement, il va le donner de cette barque qui est sur les flots. Et il s'adresse à la multitude. Vous savez, c'est merveilleux la parole, ça vaut mieux que les mots croisés. C'est d'entrer là, c'est de découvrir ces choses et d'en faire sa nourriture. Il est maintenant sur la barque et puis il va annoncer le royaume, mais un royaume en mystère. Parce que le royaume ne peut pas s'établir, puisque le roi est rejeté. Le roi est rejeté. Et vous allez le voir plus loin, on va arriver au chapitre 23. Le roi est rejeté, alors il ne peut plus, il ne peut pas régner. Le royaume ne peut pas être établi si le roi n'est pas accepté. Le roi est déjà rejeté, Jésus le sent, et alors il parle de la forme que prendra le royaume. Il parle des semailles. Et il dit un semeur sorti pour semer. Vous avez les sept paraboles de Matthieu 13, hein, qui concernent le monde entier, qui nous concernent aussi. Et sur quatre terrains où la semence est jetée, c'est la même semence, donc elle devrait pouvoir produire, la semence a la même valeur, mais les terrains sont différents. Et est-ce que tous les terrains produisent ? Il y en a un. Donc ce n'est pas la conversion du monde. Il n'annonce pas la conversion du monde. Mais il annonce que la parole sera reçue dans un terrain seulement qui est labouré, qui est préparé. Le reste, les émotions, les sentiments qu'on a dans des grandes réunions d'évangélisation où on peut chanter, on peut faire toutes sortes de choses. Et voilà qu'on a l'air d'être touché. Et puis quand les épreuves viennent, ça ne tient pas. Quand le soleil vient, eh bien, alors qu'on a reçu la parole avec joie, comme il n'y a pas de racine, eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Ça sèche. Ou bien ça tombe dans les épines, les soucis de ce siècle étouffent la parole. On l'a bien reçue, mais ça ne donne rien. Ce n'est pas des gens qui ont perdu leur salut, mais qui n'ont pas été réellement sauvés. Parce que ceux qui ont été réellement sauvés, eh bien, ça produit 30, 60 et 100. Et alors, vous avez, je ne vais pas entrer dans cette histoire des sept paraboles, mais c'est le royaume des cieux a été fait semblable. Puisque le royaume ne peut pas s'établir sur la terre, le Seigneur nous donne une vision de ce que sera le royaume. Nous en parlerons ce soir. Hein. Mais maintenant, alors, j'arrive à mon 24. Mais je vais vous laisser respirer, je vous l'ai dit. Vous voulez vous lever, chanter quelque chose ? Pour changer de position, parce que je ne veux pas être un criminel. Alors voilà, à cette question, l'enseignement de Jésus concernant Israël, les nations est-il différent des prophéties de l'Ancien Testament ? Non ! Il se référait toujours à l'Ancien Testament. Mais vous avez vu dans le chapitre 23, vous avez vu le chapitre 24, mais si vous êtes un peu curieux, vous aurez peut-être vu quand même le verset 39. Hein? Quand on ouvre les yeux sur un chapitre, peut-être qu'on va d'abord au dernier verset du chapitre précédent. Et verset 38, qu'est-ce qu'il disait ? Non, mais on va dire du 37. Vous direz que je suis impayable, mais c'est comme ça. Jérusalem, on y est, qui tue les prophètes. C'était vrai ? C'est toute l'histoire de l'Ancien Testament, on les a tués. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants ? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous n'avez pas pu, vous n'avez pas voulu. Le royaume, ils ne l'ont pas voulu. Que de fois Jésus a voulu les rassembler. Vous vous rendez compte ? Quand il était en Galilée, le sermon sur la montagne, il y avait bien 5000 personnes. Quand il multipliait les pains, il y avait 5000 personnes. Comprenez-vous ? Il avait des grandes foules. Mais ce n'est pas la foule. Les grandes foules n'étaient pas à la croix. Il y a eu un tout petit nombre. Il y a eu les foules. Et nous, on aime les foules. On pense à... Attention. Peu de fois j'ai voulu, mais vous n'avez pas voulu. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici votre maison vous sera laissée déserte. Comprenez-vous? Comme tout se lit, que la prophétie ne peut pas être une interprétation particulière, ça se lit ensemble. Hein? Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. Est-ce que c'était vrai? Dans cette maison, il n'est pas retourné. Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et alors, il sort donc de cette maison. Et vous avez le chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Parce que vous savez, quand on a été élevé dans le judaïsme, le temple, c'était le temple. Comprenez-vous? Il y était attaché. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Vous voyez, c'est toujours les yeux qui regardent. Hein? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. Et c'est plutôt alors dans l'évangile de Luc, dans le chapitre que vous avez lu, qu'on voit la destruction du temple en l'an 70. Ce temple qui avait été reconstruit sous Zorobabel et au temps d'Esdras et que avait amélioré le roi Hérode, eh bien, tout cela allait être détruit. Puis ils ont traversé le Cédron et ils se sont mis en face du mont. Et ils ont quitté le temple, ils ont traversé la vallée, le Cédron, et ils s'assirent sur la montagne des Oliviers qui est en face. Ceux qui sont allés en Israël voient très bien la chose. Hein. Alors, de la montagne des Oliviers, qu'est-ce qu'on voit? L'esplanade du temple. Mais au lieu qui est le temple de l'Éternel, qu'est-ce qu'il y a? Les deux mosquées, la mosquée d'Omar et la mosquée d'El-Aqsa. Il se peut encore que Saddam Hussein, tirant tellement mal ses missiles, fasse tomber un de ses missiles sur la mosquée d'Omar. Hein. Ce n'était pas les Juifs qui auraient détruit ça. Parce qu'il faudra que sur la planète du temple, le temple soit reconstruit. Mais ça peut se passer très vite. Les choses, j'ai toujours dit, il y aura une accélération des événements à la fin des temps. Parce que Dieu dit que ça sera une période abrégée. Comprenez-vous? Parce que la détresse serait tellement grande que nulle chair ne serait sauvée. Mais les jugements, voyez-vous, il y a une vie dans sa faveur, il y a un jour dans sa colère. N'est-ce pas? De sorte que la colère de Dieu, c'est tellement peu comparé à sa faveur. Mais voilà bientôt 2000 ans que l'évangile est annoncé. Alors ça, à un troisième groupe, hein, au monde. Parce qu'il faut que j'y revienne là. Alors il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Alors, il y a dans leur question, il y a deux plans. Hein. Il dit, quand cela arrivera-t-il? Donc, la destruction du temple, qui vient de leur prédire, et quel sera le signe de ton avènement à la fin du monde, c'est-à-dire à la fin de l'âge, avant le règne, parce qu'il doit y avoir un règne. Alors, ce n'est pas la fin du monde comme on l'entend, la destruction du monde, mais avant la fin de l'âge, littéralement, de cet âge de là, de ce siècle présent, puis après il y a le siècle à venir. Hein. Alors, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Alors, il y aura deux plans là. Il va parler de certains événements, mais il semble, quand on lit cela comme ça, que tout cela se passe en même temps. Comprenez-vous? Et que tout cela va arriver dans l'espace d'une génération. Alors on dit, mais vous voyez bien, Jésus s'est trompé. Parce que ça n'est pas arrivé. Parce qu'il y a une fausse conception, parce qu'ils n'ont pas lu dans Luc un certain aspect. Et que, entre la destruction de Jérusalem et la fin dont il est parlé, hein, il y a un grand espace que je vous ai dit. De loin, deux cimes, on peut croire qu'elles font partie de la même montagne, mais quand on arrive près, on voit qu'il y a encore hein, une grande vallée. Et cette vallée, elle est remplie par l'histoire de l'Église, comprenez-vous, de ce troisième groupe. Parce que Jésus a été rejeté, Jésus a été crucifié, vous le savez. Hein. Les chapitres qui suivent le chapitre 24 vous décrivent tout cela. Et alors, là je vous fais aller dans Corinthiens chapitre 10 pour bien vous montrer que je n'invente rien au sujet des groupes. Dans le Nouveau Testament, vous voyez le monde divisé en trois groupes. Il y a toujours Israël, il y a les nations, et le troisième groupe, c'est quoi ? L'Église, qui est comme une parenthèse. Hein. L'Église. Prenez au chapitre 10, 1 Corinthiens. Oui, on est obligé de traverser toute la Bible. Hein. Verset 32. Ne soyez pas en scandale. Ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Vous n'avez pas ça dans l'Ancien Testament, l'Église de Dieu était un mystère, c'était un secret. Qui a été révélé à qui ? À Paul, comme nous allons le voir ce soir. Comprenez-vous ? Puisqu'on va aller par étapes. C'est Paul qui a eu la révélation du mystère caché. Mais Jésus nous a donné l'histoire de ce mystère, c'est le royaume des cieux en mystère. Le royaume n'a pas pu s'établir, mais il existe quand même. Alors, il y a des gens qui vous disent, mais non, mais vous voyez, il faut interpréter ça autrement. Jésus a dit, et vous sortez cette parole, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Mais oui, le royaume de Dieu, il était au milieu de vous, et Jésus était là. Comprenez-vous ? Mais ils n'ont pas compris. Alors ils disent, mais non, mais le royaume, ça suffit qu'il soit en nous. Si Jésus règne en nous, ça va. On a le royaume. Non, mais ce n'est pas un royaume. Ça. Il faut qu'il règne d'abord dans nos cœurs. Mais il ne règne pas dans le monde. Est-ce que vous voyez Jésus régner dans le monde ?
Non.
Ou que c'est le Saint-Esprit en baptisant l'Église et qui a établi le royaume ? L'Église fait partie du royaume, mais n'est pas le royaume. Comprenez-vous ? C'est ce que nous devons bien comprendre. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Ça, c'est une autre notion que nous allons voir. C'est le corps de Christ, et elle est considérée aussi comme l'épouse de Christ. Et la vocation de l'Église n'est pas une vocation terrestre. C'est pas l'Église qui va régner. L'Église va régner où ? Dans le ciel. L'Église a une vocation céleste. Israël a une vocation terrestre. C'est pourquoi l'Israël, c'est pas fini pour Israël. Parce qu'Israël a une vocation terrestre. Et ce que Dieu a promis à Israël, s'accomplira. C'est pour ça que je vous ai fait cette petite brochure. Et que vous allez trouver là-dedans simplement des textes bibliques qui concernent le peuple d'Israël. Ce n'est pas fini. Saddam Hussein peut dire qu'il veut liquider Israël, que ce sera terminé, on ne parlera plus d'Israël, Israël ne sera plus un peuple. C'est dit dans l'Écriture, les nations disent Israël ne sera plus un peuple. Mais moi, j'ai parlé, dit le Seigneur. Comprenez-vous ? Et un jour, il reprendra ses relations avec ce peuple. Mais ce peuple doit passer par une terrible tribulation, parce que c'est toujours dans la tribulation qu'on apprend la justice. Et quand ils seront dans cette tribulation, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils crieront au Seigneur. Tout à coup, la parole reviendra. Ils se tourneront vers la parole. Il y aura une famine de la parole. Et mon fils, quand il était directeur de la société biblique, il avait cette vision de faire des dépôts de Bible pour que, après que l'Église aura été enlevée, ceux qui voudront connaître la parole et ceux qui vont venir dans les temps fâcheux de la fin, et encore la possibilité de connaître la paix. Il y aura une famine de la parole, et on ne la trouvera pas, parce qu'il y aura l'Antichrist, il y aura la bête, le faux prophète, tout cela, qui seront là en opposition contre Christ. Le monde ne va pas vers l'ordre nouveau établi par l'Église, non. L'Église qui restera, les formes, ce sera la bête, les piétinera, on ne voudra plus même de religion, plus entendre parler de religion. Ce sera l'adoration de l'homme. L'homme se fera passer comme Dieu. Et nous arrivons à ce moment-là où l'homme veut être Dieu. Et il croira réussir. Et vous voyez, tout devient mondial maintenant. Et ce rassemblement des nations, c'est quand même un signe extraordinaire. Hein. Des nations qui étaient opposées les unes aux autres, et puis maintenant ils ont l'air d'être unis, etc. Il y a un rassemblement mondial qui se fait. Et le règne de Satan va se manifester. Quand on nous dit, mais non, mais Satan est déjà lié, etc., mais sa chaîne est longue. Vous êtes dans le millénium maintenant ? Non, on n'est pas dans le millénium. Alors, maintenant, on reprend notre chapitre. Alors, cette église, ce troisième groupe, est formée de ceux qui se convertissent du judaïsme et qui se convertissent du paganisme. Alors, le mur de séparation est ôté, n'est-ce pas ? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Mais si vous sortez ce passage, il n'y a plus ni juif, ni grec, pour dire, mais maintenant, il n'y a plus que l'église, non ? Il y a toujours des juifs, il y a toujours des grecs, mais dans l'église, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, puisqu'on est un seul corps. Le mur de séparation, il n'y a plus d'inimitié, il n'y a plus de racisme dans l'église. Tu peux être noir, tu peux être blanc, tu peux être jaune, tu peux être vert. Oh, excusez-moi. C'est un peu cadavérique, ma description. Il faut bien rire, hein. Alors, non. Vous ne pouvez pas, et j'essaie de vous montrer, ça ne peut pas être une interprétation particulière, comprenez-vous ? Parce qu'il y a toujours des juifs, puis il y a toujours des grecs. Mais dans l'église, dans le troisième groupe, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, mais des hommes en Christ. Nous sommes des hommes en Christ, mais notre vocation, la vocation de l'église, c'est une vocation céleste. Tandis que la vocation d'Israël, c'est une vocation terrestre. Et alors, et c'est pour ça qu'on va arriver au chapitre 9, 10 et 11 des Romains, où tout cela nous est expliqué. Quand je pense qu'un jour, un père assomptionniste m'a demandé, Gaston, écris-nous un article sur les Juifs, sur la vocation des Juifs. J'ai dit, tu ne le publieras pas, parce que c'est pas l'enseignement de l'Église romaine. Mais il m'a dit, mais je veux, c'est le moment qu'on apprenne ces choses. Alors j'ai écrit, puis on s'est dit avec ma femme, on verra s'il le publie. Puis j'arrive à Jérusalem, je vois le père Jean Rocher qui dit, oh Gaston, là l'article. C'était dans le journal du Sacré-Cœur. Et il n'y avait pas un mot qui avait été changé. Et il y avait une joie chez ses amis. Parce que eux aussi sont dans l'attente. Mais on ne leur a pas donné la parole. Alors ma mission, ma vision, alors que peu importe toutes les critiques que je peux recevoir, j'ai une mission et nous avons une vision, c'est d'apporter cette espérance. Mais pour l'instant, évidemment, c'est par la conversion des Juifs, comme par la conversion des païens, que l'on peut échapper à ces jugements qui vont venir sur le monde. Alors, la description de ces jugements, c'est d'abord d'une façon générale. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça, c'est d'une façon générale qu'il répond. Car plusieurs viendront sous mon nom. Et vous les avez entendus, hein, et on les entend. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand je pense qu'il y a des chrétiens qui disent, vous ne pensez pas que c'est quand même vrai ? Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre ? Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur dans le cœur. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans le ventre. Ils séduiront beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'on se laisse séduire ? Il y a toujours, dans la séduction, il y a une partie de vérité. Ils feront peut-être des miracles. Mais faire des miracles, ça ne veut rien dire. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Vous pouvez faire toutes les marches possibles. Il faut que ces choses arrivent. Quand vous êtes biblique, il y a bien des choses que vous comprenez que ce n'est pas votre place. Comprenez-vous? Il faut que ces choses arrivent. Alors, on peut toujours prier, oui. Mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines. Est-ce que ça arrivé? Oui, bien sûr. Et des tremblements de terre? Oui. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Et ça a été vrai pour les premiers chrétiens, hein, avec l'Empire romain, après la venue de Jésus. Alors, c'était déjà vrai pour la génération qui a suivi Jésus et qui formait l'Église. L'Église a été d'abord persécutée, mais tant qu'elle était persécutée, elle était fidèle. N'est-ce pas? Alors, on vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est bien ce qui est arrivé aussi. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, et haïront les uns les autres. Quand on doit prendre position, eh bien, on connaît l'adversité. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est bien ce qui est arrivé aussi déjà dans le temps passé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé non pas à cause de sa persévérance, sera sauvé, c'est pas sauvé le salut de l'âme, son corps sera sauvé. Hein, comprenez-vous? Il échappera à la mort. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, au lieu de dire non, c'est plus possible, eh bien, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas nécessairement le salut de l'âme, c'est dans la tribulation, parce qu'il y aura des gens qui passeront par la tribulation, il y en a qui seront sauvés. Il y a les 144 000 de l'Apocalypse, mais là, il faudra aller dans l'Apocalypse. Parce que tout ça se lie. Il y aura des sauvés, il y aura des gens qui vivront. Il y en aura beaucoup qui seront exécutés, mais il y en a aussi qui seront sauvés. Cette bonne nouvelle du royaume, parce qu'on revient au royaume, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors c'est là de nouveau qu'il faut faire très attention. Est-ce que c'est la bonne nouvelle du royaume que nous entendons maintenant ou bien c'est l'évangile de la grâce? C'est l'évangile de la grâce de Dieu. Vous avez ça dans le chapitre 20 des Actes. L'évangile de la grâce qui nous sauve pour le ciel, qui fait de nous des enfants de Dieu, des bourgeois des cieux, des gens de la maison de Dieu. Notre patrie n'est plus une patrie terrestre, c'est notre patrie céleste. Vous êtes bourgeois des cieux, que vous soyez juif ou que vous soyez grec, nous sommes une famille, la famille de Dieu. Alors, cette bonne nouvelle du royaume, le Seigneur va plus loin, alors là, ça va jusqu'à la fin, de sorte que penser que le Seigneur ne peut pas revenir avant que toutes les nations aient entendu l'Évangile, ben, c'est pas cela. C'est qu'il y aura de nouveaux serviteurs pour annoncer cette bonne nouvelle du royaume. Et qui seront ces serviteurs qui parleront du royaume? Les Juifs convertis. Et il y a une dispensation particulière pour les Juifs qui vont se tourner vers celui qu'ils ont percé parce que simplement par l'Ancien Testament, ils peuvent se convertir. Ils regarderont vers celui qu'ils auront percé et ils se lamenteront, ils s'humilieront et ils le reconnaîtront comme Messie et ils diront « Viens, Seigneur Jésus ». Et c'est eux qui seront, après l'enlèvement de l'Église dont je vous parlais tout à l'heure, qui seront employés pour annoncer l'Évangile à toutes les nations du monde. Parce que l'Église, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Des efforts d'évangélisation. Mais dire que nous avons planifié l'évangélisation du monde jusqu'à l'an 2000 et que là tout sera fini, ben nous, c'est pas ça. Comprenez-vous? Et il faut lire ce qu'il y a plus loin pour montrer que ce que nous avons à attendre, c'est pas que l'évangélisation soit faite dans tout le monde. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons évangéliser. Mais il ne faut pas penser que c'est nous qui allons achever le travail. Dieu va susciter d'autres hommes. Parce que nous sommes trop compromis dans les iniquités du christianisme. Il faut des hommes nouveaux, des témoins nouveaux qui seront prêts à donner leur vie pour le Seigneur et qui ne sont pas compromis dans les iniquités des croisades. N'est-ce pas? Parce que vous voyez maintenant, les musulmans sont là, puis ce qu'on leur offre, j'ai lutté, je l'ai dit souvent depuis plus de 40 ans, contre ce mot croisade. N'employez pas croisade, puisque les musulmans vont venir ici. Mais on appelait croisade évangélique, etc. Mais qu'est-ce que ça donne aux musulmans, le mot croisade? Le massacre des infidèles, comme on les appelait. Et qui est-ce qui a fait ce massacre? Pour avoir quoi? Le tombeau vide. Le Shoah, l'Holocauste, nous compromet aussi vis-à-vis des Juifs. Alors, ce n'est pas nous qui pouvons vraiment, vraiment évangéliser les Juifs. On peut le faire, on le fait, oui. On a à le faire jusqu'au bout. Mais nous ne nous faisons pas d'illusions. Alors, verset 15, donc il y a une première partie. Alors viendra la fin. Donc, quand la bonne nouvelle du royaume sera annoncée, mais il faut voir ce que c'est que ce royaume. Alors, nous allons revenir là-dessus ce soir. C'est pourquoi, verset 15, une deuxième partie. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Alors, il faudra aller où pour trouver ça? Dans Daniel, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ce sera, cette abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel? Établi dans le lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Vous voyez que Pierre était dans la pensée de Jésus en disant que vous devez faire attention à la parole prophétique, à laquelle vous faites bien d'être attentif. Que celui qui lit comprenne, ça ne se comprend pas nécessairement comme ça d'un coup. Il faut y penser, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ces choses se passeront, ça sera tellement rapide, n'est-ce pas, qu'il n'est pas question d'être comme la femme de Lot, de revenir en arrière. Et ça a été vrai en 70, quand tout à coup les armées romaines ont été autour de Jérusalem. Ceux qui avaient la parole savaient qu'ils devaient fuir. Et beaucoup ont fui dans la ville de l'autre côté du Jourdain, en Cisjordanie, à Pella. Donc, ça leur aura déjà servi. Mais ça va servir à ceux qui seront après nous et qui connaîtront les terribles jugements qui vont venir. Mais vous voyez, la condescendance et la bonté de Dieu. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Vous voyez que Dieu pense aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, parce qu'il pense au froid, il pense à la température. On n'a jamais vu un Dieu pareil. Le Dieu qui pense à tout et qui veut ménager et puis qui nous dit comment nous devons prier. Ni un jour de sabbat. Alors, ça concerne quoi le jour de sabbat? Ça vous concerne vous? Est-ce que vous observez le sabbat? Non. Pourquoi ça ne doit pas être un jour de sabbat? Parce qu'un sabbat, vous ne devez pas faire plus de tant de kilomètres de marche. Vous ne pouvez pas fuir. Alors vous, montrez que ce ne soit pas un jour de sabbat. Comprenez-vous? Donc ça concerne là le peuple juif. Matthieu s'adresse aux juifs. Mais il passe par-dessus tout. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Donc, on n'y est pas encore. Hein? On n'y est pas encore. C'est pas quelque chose qui passe. Et qu'il n'y en aura jamais. Il n'y a qu'un temps de détresse comme ça. Et c'est de cette détresse-là que nous avons dans la prière de Jésus. Garde-nous de la tentation, l'heure de l'épreuve, l'heure de la tentation qui va venir sur la terre habitée tout entière, comme il est dit dans le chapitre 3 de l'Apocalypse. On demande cela. Mais dans l'Apocalypse, il est dit au sujet de l'église de Philadelphie, je te garderai de l'heure de l'épreuve. De sorte qu'il y a une espérance, une délivrance avant l'heure de l'épreuve pour une catégorie de personnes. Et si ces journées étaient abrégées, personne ne serait sauvé. Alors vous comprenez ce que veut dire le mot sauvé là, et personne n'est différent, on serait tous morts. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, ça c'est les temps de la fin, et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si on vous dit, voici il est dans le désert, faites le voyage. C'est ce que les gens font. Hein. On leur a dit qu'il y avait quelqu'un là d'extraordinaire, ils font le voyage. Ils font exactement le contraire de ce que dit la Bible. On est en pleine apostasie. Voici où il est dans les chambres. Croyez-le ? Non, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors là, il est question de l'avènement du Fils de l'homme. Alors là, vous allez jusqu'à la fin. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Ça c'est un proverbe, n'est-ce pas, qui montre que le jugement va tomber sur ce qui n'est que forme. Le cadavre, c'est ce qui n'a pas de vie. Là où sera le cadavre, le jugement tombera.